C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
This is Barack Obama. Let's make America queer always with Chantal Maddow.
Je sais que t'aimes ça, cette présentation-là. Chantal Nadeau, qui est professeure d'études féministes et de genre à l'Université de l'Illinois. Chantal, on commence en gros. La Cour suprême des États-Unis vient de rendre une décision qui ébranle le monde de la santé. Et donc, qui invalide l'interdiction des thérapies de conversion aux mineurs en s'appuyant sur le premier amendement. Explique-nous ça.
Écoute, c'est un glissement juridique majeur et, je dirais, anxiogène pour les populations queer aux États-Unis. Dans une décision sans appel de 8 contre 1, les juges ont estimé que, puisque ces thérapies reposent sur la parole, elles relèvent de la liberté d'expression et non de la pratique médicale réglementée. C'est un raisonnement qui transforme un acte de soin en un acte de discours, dans ce cas-ci, une simple opinion. En faisant cela, la Cour crée une brèche énorme. Elle suggère qu'un professionnel de la santé peut ignorer les standards de sa profession et les preuves scientifiques dès lors qu'il n'utilise que le langage. Pour les jeunes LGBTQ états-uniens, ça signifie que la protection de l'État s'arrête là où commence le prétendu droit de parole du thérapeute, même si ce dernier, cette dernière, utilise des méthodes qui provoquent des traumatismes profonds.
Donc, ça veut dire que c'est le retour des thérapies de conversion, là.
Oui, ça veut dire qu'au niveau juridique, ça veut dire qu'en l'absence de quelques altérations chimiques, médication ou physique, chirurgie, toute intervention destinée à corriger des comportements, des pensées ou une identité jugée non conforme aux standards hétéronormatifs est légale.
Aïe, 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 aïe. Bon, mais l'ONU avait quand même qualifié les thérapies de conversion de torture.
Oui, en effet, mais comme tu sais, l'ONU a un pouvoir moral et non juridique.
Oui.
Alors, il faut que savoir, pour avoir des statistiques aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe avec les thérapies de conversion? J'ai fait un décompte dans les États. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a 23 États qui ont jugé illégales les thérapies de conversion, 4 États qui restreignent les thérapies de conversion, mais n'interdisent pas à certains professionnels de la santé dûment accrédités de dispenser des soins de conversion, et 5 États, tous du Sud, hein, je parle du Sud continental, interdisent toute loi prescrivant les thérapies de conversion, ce qui nous laisse avec 18 États avec un vide juridique.
Bon. Bien, cela dit, il n'y avait pas... C'est pas tout le monde sur la Cour suprême qui était d'accord. Il y a eu la dissidence. La juge Ketanji Brown Jackson qui a publié une opinion dissidente extrêmement vigoureuse.
Oui, la juge Jackson, brillante avocate, progressiste et première femme noire nommée à la Cour suprême, rappelle une vérité fondamentale qui semble avoir échappé à ses collègues, incluant ses alliés libérales de Sotomayor et Kagan. La médecine n'est pas un débat d'idées, c'est une science basée sur des faits. Elle dénonce l'idée que les traitements par la parole, hein, seraient immunisés contre la réglementation sous prétexte qu'ils ne sont pas chirurgicaux. Elle insiste sur le fait que la société états-unienne a établi des normes claires pour protéger les citoyens contre l'incompétence et les traitements soi-disant préjudiciables. Sa distance assassine est un rappel puissant que la liberté d'expression ne devrait jamais être un permis de répression ou de négation, surtout lorsqu'il s'agit de la santé mentale des mineurs.
C'est vraiment quelqu'un qui fait parler d'elle, hein, cette juge?
Oui, elle a été nommée par Biden. Et je dirais que Biden avait déjà du sang sur les mains à cause de lui qu'on s'est ramassé avec Clarence Thomas à la Cour suprême.
Oui, oui, oui.
Oui, oui. Alors, quand même, c'est une juge qui est super articulée. Elle vient du milieu communautaire. Elle a fait plein de trucs au niveau des cours d'appel. C'est vraiment une femme brillante. C'est la plus jeune, d'ailleurs, sur la Cour suprême, parce que pour l'auditoire canadien et francophone, il faut savoir qu'aux États-Unis, les juges sont nommés à vie.
Oui. Maintenant, là, cela dit, une opinion dissidente, ça sert à quoi quand la majorité a dit que c'était correct?
Ce que ça fait, c'est que ça donne des munitions à des groupes comme ACLU, tous les groupes qui essaient de contester, qui amènent en cour, qui font des réclamations d'appel.
Donc, pourrait ramener cette question-là.
Oui, donc ça peut faire jurisprudence éventuellement. C'est sûr qu'on parle de pas demain matin, hein?
Non, mais c'est intéressant.
Oui, et Jackson est toujours, elle est toujours comme ça. Elle fait toujours quand elle fait des opinions dissidentes, Ketanji Brown Jackson, elle fait toujours pour donner les munitions aux groupes qui contestent ce genre de loi. Alors, elle est impeccable là-dessus.
On va aller dans un autre État, en Géorgie, et là, c'est vraiment intéressant ce qui se passe là. Malgré toutes les sombres nouvelles qu'on peut entendre aux États-Unis, à la Géorgie, on vient de nous offrir une surprise de taille. Pour la première fois depuis des années, la totalité des 15 projets de loi anti-LGBTQIA+ a été bloquée lors d'une session du Parlement. Comment un État aussi conservateur a-t-il pu faire un tel virage?
Moi, je dirais que je retourne à Brown Jackson et je pense que quand elle parle qu'il y a des risques accrus de dépression, de pulsions suicidaires par ce genre de décision qui a été faite par rapport aux conversions de thérapie, je te dirais que c'est une victoire historique qui repose sur une mobilisation et une coordination de terrain sans précédent entre activistes et groupes de défense des droits des communautés LGBTQ+. Et fait encore plus marquant, et ça j'insiste, c'est que la Géorgie fait partie des cinq États qui interdisent toute loi bannissant les thérapies de conversion. Donc c'est assez intéressant qu'ils ont, alors qu'on s'attendait à un État comme ça qui allait comme renforcer tout ce qui s'est décidé au niveau de la Cour suprême, non, ils ont donc retourné, si tu veux, la rhétorique. Donc il y a plus de 60 comtés qui se sont unis pour dire non à ces lois discriminatoires. C'est quand même assez étonnant parce que... Quand on regarde la Géorgie, il y a Atlanta qui est comme une espèce d'enclave libérale, si tu veux. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça a dépassé l'enclave démocrate traditionnelle. Ce qui est fascinant dans le changement de discours, les organisations comme Georgia Equality ont réussi à convaincre que ces soi-disant guerres culturelles étaient des distractions politiques et coûteuses, ce qui est toujours politiquement... chanceux aux États-Unis. Les électeurs géorgiens ont clairement exprimé qu'ils préféraient voir leurs élus travailler sur le coût de la vie plutôt que de criminaliser les bibliothécaires qui refusent d'interdire des livres ou les soins de transition. Je te dirais que c'est la preuve que même dans les États du sud états-unien, la rhétorique anti-queer se fissure et que la Cour suprême est de plus en plus déconnectée des réalités économiques et sociales qui faisaient partie du jugement de dissident de Brown Jackson.
On a encore un petit peu de temps. Est-ce qu'on commence à avoir un effritement de ce mouvement MAGA, Make America Great Again, de M. Trump? Il semble qu'il commence à avoir la vie plus difficile, Donald Trump.
Mais là, il y a eu quand même à savoir comment ça va se concrétiser dans les bulletins de vote,
ouais.
Ça c'est autre chose. Mais il y a certainement une fissure qui s'applique et même de voir la Géorgie qui, traditionnellement, on s'inquiète absolument pas de ce qui va se passer au niveau de... Pour les républicains, la Géorgie, c'est toujours dans la poche, comme on dit, sauf Atlanta, mais Atlanta, c'est comme Austin au Texas, ça, c'est autre chose. Mais on voit une fissure et ce qui se passe, c'est que la fissure, plus en plus... Je pense que l'administration Trump a très mal jugé sa façon de se retourner. Bien sûr, il y a plein de théories conspirationnistes sur pourquoi l'administration Trump s'est tournée vers l'international. Mais je pense que ce qui se passe, c'est que les gens qui sont profondément anti-international dans le mouvement MAGA, qui faisaient partie finalement de la plateforme de Trump dans ses deux mandats, quand il était en campagne, c'est que qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens font ben non. Et comme je lisais par Gender Equality de la Géorgie qui nous dit ben non, mais là, au niveau économique, qu'est-ce qui se passe? Là? On n'en a rien à foutre. Oui, oui, c'est correct, là, les thérapies de conversion. Oui, oui, c'est correct, les transgenres. Mais là, donc, ça complètement. Et c'est à ce niveau-là que ça va peut-être. Je dirais que c'est à ce niveau-là que la fissure s'opère. Et les gouverneurs démocrates aux États-Unis, incluant mon gouverneur ici en Illinois, Pritzker, jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus.
Ben, Chantal Nadeau, professeure d'études féministes et de genre à l'Université de l'Illinois, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
OK, merci Denis Martin. Bye-bye.